Luc chapitre 6, à partir du verset 39 à 45. L'évangile de Luc chapitre 6, verset 39 à 45. Au nom de Jésus. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Un bon arbre ne produit pas du mauvais fruit et un mauvais arbre ne produit pas du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur les buissons d'épines et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Car la bouche de l'homme exprime ce dont son cœur est plein. Amen. Jésus a de l'humour. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que le style de la phrase de Jésus aurait l'air d'une ironie, ou au moins, on va dire, une touche d'humour. Mais alors, si Jésus a de l'humour, est-ce que Jésus se moquerait-il des aveugles? Je me suis dit, s'il était présent parmi nous dans notre époque aujourd'hui pour dire ces phrases-là, ou, on va dire, un personnage public très connu qui parlerait de ce genre de phrase et qui sortirait cette phrase-là dans les médias actuels, j'imagine que beaucoup s'indigneront et seront offusqués. Scandaleux. Les différentes ASBL, les fondations qui protègent les droits des handicapés auraient pris la parole par la suite pour demander « il faut une excuse en public ». Mais justement, ce que Jésus est en train de dire, c'est un reproche qu'il fait de façon ironique pour mettre un doigt sur ce qui fait mal, l'aveuglement. L'aveuglement de ceux qui se disent comme leaders religieux. Et ces leaders religieux qui profitent de l'ignorance des brebis pour les induire encore un peu plus à l'erreur. L'ignorance des brebis convient bien les leaders religieux de son époque. Les enseignements erronés donnés par ces personnes-là font encore plus mal que le mal même. Alors le style de langage est typiquement à Luc et nous pouvons retrouver cette thématique, si vous lisez tout le livre de Luc, cette thématique d'aveuglement se retrouve dans le livre, par exemple dans Luc chapitre 11, versets 34 à 36, je vais le lire. Luc 11, 34 à 36. « Tes yeux sont la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier, en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. » La question qui se pose alors est la suivante. De quoi Jésus reproche-t-il de ces légalistes juifs? Regardez comment Jésus met en comparaison deux situations totalement opposées. Pour le faire comprendre, Il a fait cela sous la forme de paraboles ou d'illustrations. Il a pris l'exemple de la paille et de la poutre dans les yeux. C'est-à-dire quelque chose de visible à l'œil nu, à l'extérieur. Jésus reproche la superficialité des Juifs qui sont toujours prêts à guetter les moindres traces d'anomalie extérieure chez une personne. Ça, c'est caractère typique des pharisiens. De plus, ce qui est encore plus ridicule dans tout cela, c'est l'échelle. Regardez comment Jésus met en valeur l'échelle de valeur qu'il donne sur la gravité d'une faute ou pas. La poutre est tolérable. Par contre, la paille est inacceptable. C'est ce qui est dit ici. Il inverse la gravité des choses. Voilà l'hypocrisie dénoncée par Jésus. Cette façon de parler nous fait aussi rappeler le propos de Jésus dans Matthieu chapitre 23, verset 24, où il dit: Conducteur aveugle, et écoutez bien la suite, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. C'est la même chose, la paille et la poutre. C'est de l'ironie. Vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. C'est étonnant comme phrase. Donc ce que Jésus reproche ici n'a rien à voir avec ce que nous croyons depuis toujours, comme s'il fallait, c'est ce que nous avons compris de ce texte, comme s'il fallait être parfait avant de pouvoir dire quelque chose à l'encontre d'une personne. Non, c'est pas cela. Je crois que personne ne pourrait ni oserait dire quoi que ce soit et attendre d'être sans reproche pour pouvoir dire quelque chose. Je n'oserais même pas me lever ici pour prêcher la parole si j'attendrais une perfection pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est pas cela ce que Jésus dit. Mais la sagesse populaire va pourtant dans ce sens. C'est quoi cette sagesse populaire? Avant de parler sur la vie de quelqu'un, il faut d'abord nettoyer le pas de sa porte. Ça, c'est la sagesse populaire. Mais ce n'est pas une sagesse biblique, même si il y a du bon sens. Ce qui est vrai dans un sens, mais ici, ce que Jésus dit n'est pas du tout dans ce cas-là. Il dénonce l'attitude des gens qui osent pervertir le peuple de Dieu en chamboulant totalement toute notion de valeur. C'est ça le point qui est souligné. Alors, pour que vous soyez sûrs et pour être plus précis dans mes propos, voici quelques exemples que Jésus avait soulignés dans les évangiles. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 7. Marc, chapitre 7, versets 10 à 13. Marc, chapitre 7, versets 10 à 13. Il est dit: Moïse dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi celui qui dit du mal de son père ou de sa mère doit être mis à mort. Mais vous, en accusant les pharisiens, vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère la part de mes biens que je pourrais utiliser pour t'aider est corban, ce qui signifie un don réservé pour Dieu, il n'a plus besoin d'aider son père ou sa mère. Vous le lui permettez. De cette façon, vous détruisez la valeur de la parole de Dieu par l'enseignement que vous transmettez les uns aux autres. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Voilà un exemple typique. Regardez bien, ici Jésus met un dilemme sur le plan éthique. Respectez la loi sur l'offrande, le corban, c'est-à-dire vous avez mis à part une offrande, vous avez prévu apporter cet argent pour l'offrande, pour l'église par exemple, ou pour une autre association chrétienne. Mais entre-temps, Vous recevez un coup de fil de vos parents. J'ai besoin de 20 euros, je suis malade. Quelle est l'éthique chrétienne face à cela? C'est ce que Jésus met ici en avant. Respecter la loi sur l'offrande, qui est aussi importante, ou de respecter et honorer ses parents. Et face à ce problème d'éthique, il va falloir faire un choix. Et regardez bien l'éthique de Jésus. Pour lui, il vaut mieux désobéir à la loi sur l'offrande si c'est pour sauver la vie d'une personne, de ses parents qui manquent à manger ou leur vie sont en danger. Et là, nous voyons un exemple typique de l'application de la parole de Jésus sur la paille et la poutre, sur le moustique et le chameau. C'est-à-dire, vous avalez ce qu'on ne peut pas avaler et vous tolérez ce qu'on ne peut pas tolérer. Vous voyez la différence entre l'éthique de Jésus et l'éthique chrétienne. Matthieu chapitre 23, deuxième exemple. Matthieu chapitre 23, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 23, versets 23 à 24. Au nom de Jésus. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous donnez à Dieu la dixième partie de plantes, comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements des plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Ils touchent ici à la dîme. Ils incitent les gens à donner leur dîme et leur argent pour le temple, mais ils négligeaient la bonté. Ils négligeaient la justice. À quoi ça sert la dîme? Est-ce que c'est pour acheter le silence de Dieu? Voilà, tu as reçu la dixième, maintenant tu te tais, je fais ce que je veux. C'est moi de gérer ma vie? Non. Ils sont attirés par l'appât du gain et cherchent à manipuler la loi de Dieu pour en soutirer un avantage personnel. C'est vicieux. Pourtant, ils disent que c'est la loi de Dieu. Vous voyez, rien qu'avec ces deux exemples, on peut comprendre quelle est l'éthique de Jésus-Christ. Donc, l'éthique de Jésus n'est pas une éthique superficielle, basée sur des choses extérieures qui pourront être trompeuses. Et si vous lisez le verset 43 à 45, Jésus n'est pas pressé de se soucier de ce qui se présente à l'extérieur. Pour lui, c'est secondaire. Contrairement aux pharisiens, qui ne se préoccupaient que du paraître religieux, Jésus se préoccupe plutôt de ce qui se passe d'abord à l'intérieur, qui est pour lui la source de tout ce qui se manifeste à l'extérieur. Tout vient du cœur. Et c'est là qu'il faut aller à la source. Pour lui, pour Jésus, la vraie question, est-ce qu'on est un bon ou un mauvais fruit? Car tout dépend de ce que nous avons dans le cœur. Nous sommes tellement braqués sur le visible, ça c'est l'être humain, comme les pharisiens, qui demandaient des explications à Jésus, par exemple, lorsque ses disciples avaient arraché des épis de blé, un jour de sabbat. Avec cet exemple-là, nous pouvons se rendre compte de la mauvaise foi des pharisiens qui osaient exagérer leurs propos en accusant les disciples de travailler un jour de sabbat. Pourtant, ils étaient en route. Ils avaient faim et ils arrachaient quelques épis pour atténuer leur faim. C'est vrai, superficiellement. Légalement, les disciples ont commis deux fautes graves. Prendre ce qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas eux qui ont planté le blé. Hein. Pourtant, ils l'ont pris. Et ensuite, cueillir un jour de sabbat, qui est aussi une faute grave pour les Juifs. Donc vous voyez, sur le plan légal, ils sont fautifs. devant la société, devant la communauté judaïste. Mais la réponse que Jésus avait donnée met en lumière quelle est la motivation qui justifie l'acte. C'est ça pour lui. C'est la motivation, ce n'est pas la fin, c'est la motivation. Et contrairement à la pensée du monde qui dit c'est la fin qui justifie les moyens, la logique de Jésus, c'est tout à fait l'inverse. C'est la motivation qui justifie l'acte. La pauvre femme, rappelez-vous aussi, qui venait avec ses offrandes, avec des petites pièces, peut-être en centimes aujourd'hui, par rapport au riche qui est venu donner ce qui lui restait dans sa poche, au fond de sa poche. Extérieurement, le monsieur avait donné largement comme offrande, puisque on peut imaginer le fond de la poche d'un riche pourrait être un billet de 50 euros. Il gagne 10 000 euros par mois, le fond de sa poche, 50 euros. Tandis que le fond de la poche d'une personne modeste serait 10 centimes. Mais Jésus avait considéré celle de la femme et non celle du monsieur. Et là, je dis encore, faisons attention, ne tombons pas dans une interprétation bancale pensant que Jésus n'aime pas les riches et qu'il préfère les pauvres. Non, c'est pas ça du tout. L'évangile n'exclut personne, mais ce qui est mis en exergue, c'est que l'éthique de Jésus ne dépend pas de ce que la société ni les hommes attendent de nous. Ce n'est pas la société qui dicte ce que nous devons faire. Son éthique dépend uniquement de la source où elle prend ses racines. Et Paul souligne bien dans la lettre aux Corinthiens que c'est l'amour du Christ qui le presse. Vous imaginez cette image, qui le presse. C'est ça qui crée l'acte. C'est l'amour. Si ce n'est pas l'amour de Dieu qui te presse à faire quelque chose, ne le fais pas. Dès que tu commences à réfléchir, est-ce que je vais le faire ou pas? C'est déjà un péché. Mais si c'est l'amour de Dieu qui te presse à le faire, ne te pose pas des questions, ne te dis pas, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais qu'est-ce que le pasteur va dire? Tu t'en fous. Fais-le. Parce que c'est l'amour de Dieu qui te le presse. Ce n'est ni le fruit d'un dynamisme, ni le fruit du zèle. Ça, c'est un caractère humain. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un tempérament, c'est autre chose. Il s'enracine dans l'amour du Christ qui doit être la seule source valable de nos actes. Toute œuvre, toute bonne œuvre qui ne s'enracine pas dans la foi en Jésus-Christ est un péché, même si extérieurement elle est belle aux yeux de l'humanité. Vous voyez? C'est très différent l'éthique de Jésus. Ce ne sont pas les nombres des villes qu'il a visitées pour Paul qui est le plus important, ni les personnes qui l'écoutaient, qui qualifiaient l'œuvre de Paul. Mais c'est uniquement l'amour du Christ. Lui, il ne se trompait pas. Il n'était pas, on va dire, trempé dans le fait qu'il y avait multitude de personnes qui l'écoutaient ou les gens qui le disaient, « Ah, ton enseignement est bien, Paul ?» Non, il dit, je n'ai que l'amour du Christ qui me presse. Telle est ma seule motivation. Que ta foi aussi soit le fruit de ton amour pour le Christ. Tu aimes le Christ? Comment il a dit avec Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Alors, garde mes brebis. D'abord, la question, m'aimes-tu? Et si tu es sûr que tu m'aimes, fais ce que tu as à faire. Amen.